L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
J'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire, ça va être un peu particulier ce soir puisque je vais passer pas mal de temps à lire pour vous. Lire dans un livre qui s'appelle « Les réveils religieux ». Et c'est, je pense, c'est mon livre de chevet parmi tous ceux que j'ai. C'est un livre que j'ai depuis longtemps et que je ne fais que de lire constamment. Jusqu'au jour où je vais moi aussi vivre un réveil réel et voir la puissance de Dieu. Donc on peut simplement prier avant de commencer, simplement ouvrir nos cœurs à la présence de Dieu. On sait que le Seigneur est là et qu'il veut nous toucher. Père Céleste, je veux te remercier pour ta présence. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu plein de compassion. Ta compassion est si grande que tu as envoyé Jésus mourir pour nous. Seigneur, merci d'avoir payé le sacrifice de ta vie. Merci d'avoir eu un regard plein de compassion pour les perdus que nous étions. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, tu nous as lavés. Et je prie ce soir que tu puisses vraiment réveiller nos esprits, que tu puisses réveiller les cœurs, les vies, les pensées. Saint-Esprit, tu es le bienvenu au milieu de nous ce soir. Nous avons faim et soif de toi. Nous voulons voir ta gloire demeurer parmi nous, ta présence couler sur nos vies. Je prie que tu puisses vraiment illuminer les yeux de nos cœurs ce soir. Ouvrir notre intelligence pour que nous puissions saisir ces vérités de ta parole dont on va parler ce soir. Merci pour le feu qui va être animé, le feu qui va être réanimé, le feu qui va augmenter au milieu de nous. Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un esprit vivant, un esprit d'amour, un esprit de feu. Un esprit de gloire, un esprit de vie, un esprit de résurrection et un esprit de réveil. Je prie que tu puisses venir réveiller, réveiller nos cœurs, réveiller l'Église et réveiller tous ceux qui entendront ce message pour ta gloire. Père, merci. Merci, nous nous humilions devant toi, nous nous soumettons à ta parole et nous ouvrons nos cœurs. Viens nous parler par ton esprit. Amen. Alléluia. Donc ce soir, c'est un thème qui n'est plus souvent développé dans beaucoup d'endroits. Donc on va parler du réveil. Et lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, on voit ce que c'est le réveil. Mais voir ce qu'est le réveil, c'est bien, mais le être dedans, c'est tellement différent. Et on a vraiment besoin de se concentrer et m'écouter pour expérimenter quelque chose et comprendre quelque chose déjà. Mais c'est ça, on peut lire la parole de Dieu et voir dans les actes le réveil qui est là. Et on lit certaines choses. Mais après, le vivre, c'est vraiment une autre dimension, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est quelque chose d'extraordinaire et les gens qui ont vécu un réveil s'en rappellent toute leur vie. Et ils le communiquent, ils en parlent toute leur vie, et ils n'oublient jamais ce qu'ils ont vécu. Et je crois qu'au travers de ce message, Dieu va nous parler individuellement, va essayer en fait de nous réveiller, de nous stimuler à plus de soif, à plus de consécration, à plus de recherche de sa présence. La Bible dit dans Actes chapitre 2 et au verset 37, après que Pierre a commencé à prêcher l'évangile, le véritable évangile, parce que lorsqu'on prêche le véritable évangile pur et sans tache, il y a de véritables fruits. Et la Bible dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, mais en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc ça, c'est le récit d'un réveil et d'un début de réveil. Et on voit différentes choses vraiment intéressantes. La première chose qu'on voit, c'est que une fois qu'on prêche le véritable évangile, ça va créer dans le cœur des gens une conviction de péché. Et lorsqu'on annonce l'évangile, normalement, à quelqu'un, il devrait se passer quelque chose qui les amène à crier « Que ferons-nous ?» Il ne faut pas qu'on s'attende à moins que ça, lorsqu'on annonce l'évangile, de voir cette personne être touchée profondément sous la puissance de Dieu. Il ne faut pas qu'on s'attende à autre chose que de voir la parole de Dieu accomplir son effet. La Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et si on annonce l'évangile, il faut s'attendre à ce que les gens à qui on annonce l'évangile, il y ait une puissante conviction de péché qui vienne sur eux. Il y a quelque chose vraiment de surnaturel, quelque chose de profond qui descende sur eux et qui fait que même s'ils n'acceptaient pas le Seigneur tout de suite, cette conviction va les suivre jusqu'à ce qu'ils puissent plier les genoux et crier à Dieu de tout leur cœur afin qu'ils soient sauvés. Et si on pense que lorsqu'on annonce l'évangile, ça va se passer différemment, ben on ne récoltera pas les fruits de l'évangile. Le véritable évangile amène les gens à se repentir et à crier à Dieu pour être sauvés. Si on pense qu'on est dans un terrain dur et difficile, il y a toujours eu un terrain dur et difficile. Par contre, il y a un esprit qui brise les cœurs les plus durs, qui les fait fondre. Et si on regarde à cet esprit-là, on récoltera selon cet esprit. Mais si on regarde à notre expérience personnelle ou les circonstances de nos vies, on récoltera selon ces circonstances et selon notre expérience. Et le message des apôtres au verset 40, il disait « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Et lorsqu'on annonce l'évangile, on a parfois du mal, d'un point de vue humain, à annoncer le véritable évangile. Et dans l'annonce du véritable évangile, il y a vraiment ce côté de « il faut renoncer à ton péché, il faut que tu puisses être sauvé de cette génération qui marche dans la perversité, dans le mal et dans la méchanceté ». Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a 3000 âmes qui vont être sauvées. Et là, il va y avoir tout l'aspect vraiment de l'amour fraternel, du développement de la croissance fraternelle, du développement de l'œuvre de Dieu, mais aussi d'une crainte qui va s'emparer de chaque personne. Et ça, c'est ce qui se produit dans le réveil. Lorsque le réveil se manifeste quelque part, il y a une crainte qui vient à la fois sur les croyants, mais à la fois aussi sur les incroyants. Une crainte de Dieu comme il n'y avait pas auparavant. Le réveil commence par une poignée de personnes, des enfants de Dieu, qui vont être alarmés, qui vont ouvrir les yeux par rapport à la vie qu'ils mènent. Et combien leurs intérêts, combien même tout ce qu'ils appelaient des bonnes pensées, quelque chose de religieux qui paraissait être bon, ils réalisent que tout ça, c'est tellement rien comparé à ce que Dieu voudrait pour eux. Quand l'Église va se réveiller, et quand les croyants se réveillent, et qu'ils réalisent leur état spirituel, combien ils sont tièdes, combien ils sont froids, et qu'il y a un cri qui vient et qui jaillit de leur cœur et qui commence à prendre les intérêts de Dieu, il y a une crainte qui va venir sur eux, une crainte de Dieu. Une crainte de Dieu par rapport à leur vie, à ce Dieu qui regarde les moindres recoins de notre vie. Et cette crainte va les amener à se soumettre à Dieu et à obéir à la parole de Dieu. Parce que la crainte de Dieu nous amène à l'obéissance. Et lorsqu'on va obéir à la parole de Dieu, Dieu va nous enflammer. Dieu va mettre un feu sur nous. Et on va commencer à annoncer l'évangile partout. Partout où nous sommes. Partout où nous sommes, le feu du Saint-Esprit qui viendra sur nous, alors qu'on s'est repenti à cause de l'état de notre cœur, va nous amener à faire des choses qu'on n'aurait jamais faites auparavant. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va produire une crainte aussi sur la vie des gens à qui on prêche, à qui on parle. Il y a quelque chose de surnaturel. Annoncer l'évangile, c'est surnaturel. Trop souvent, on a pensé qu'annoncer l'évangile, c'était naturel, c'était des bons procédés, c'était une bonne méthode, c'était des mots qu'il fallait dire ou ne pas dire. Mais annoncer l'évangile, c'est surnaturel et c'est spirituel. La Bible dit que l'homme qui est rempli de l'esprit, il est comme le vent, on ne sait ni d'où il va ni d'où il vient. Et lorsqu'on est vraiment enflammé par le Seigneur Jésus, lorsqu'on est enflammé par le Saint-Esprit, on est comme des électrons libres. On peut se retrouver aujourd'hui ici, demain ici, on peut se retrouver là maintenant et dans 15 minutes, quelque part, mais de tellement différents, dans des dimensions plus grandes et plus extraordinaires. Dieu a un plan glorieux pour l'Église et ce plan, c'est le réveil. Le réveil pour Dieu, c'est ce qui est naturel, c'est la normalité. Par contre, la déchéance spirituelle et la froideur et la tiédeur pour Dieu, c'est tout à fait anormal. Donc Dieu nous amène, nous appelle à un réveil. Je vous ai parlé de ce livre qui s'appelle « Les réveils religieux ». Et ça a été, ce qui est prêché dedans, c'était Charles Finney qui le prêchait, donc cet homme de réveil, qui a amené vraiment des dizaines de réveils dans beaucoup d'endroits. Et vraiment, il parle de ce qu'il a vécu. Et ce livre a été édité encore et encore et encore à de nombreuses fois. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment un intérêt qui se fait de plus en plus rare par rapport au réveil. Et ça montre un peu le cœur de l'Église et le niveau spirituel de l'Église francophone, entre autres, mais de l'Église dans le monde. Et on va voir ce qu'est un réveil. Donc c'est ce que je vous avais dit. Je vais lire certains passages pour vous, et on va en parler aussi. Mais il y a une chose déjà qu'il a dite et que j'aimerais lire pour vous, pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez noter ça. Il dit « Le réveil n'est pas un miracle, mais le résultat d'un emploi convenable des moyens appropriés. » Le réveil n'est pas un miracle, mais le résultat d'un emploi convenable des moyens appropriés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on emploie les bons moyens, le réveil arrivera. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que le réveil ne vient pas de Dieu, le réveil vient de nous. Dans son premier discours de ce livre, il prend le verset de Habacuc au chapitre 3 et au verset 2. Et il dit, où il est écrit, « Ô Éternel, ranime ton œuvre dans le cours des années. » Fais-la connaître dans le cours des années. Dans ta colère, souviens-toi d'avoir compassion. » Donc c'est la prière d'Habacuc qui prie « Éternel, ranime ton œuvre. » Et le réveil, c'est ça, c'est le cri d'un enfant de Dieu qui crie « Mais ranime ton œuvre. » Donc je vais lire pour vous. Il dit « La religion est l'œuvre de l'homme. » Quand il parle ici, vous allez entendre plusieurs mots qu'on utilise un peu différemment aujourd'hui. Ici, la religion, c'est vraiment le côté positif, plus comme on en parle aujourd'hui. « La religion est l'œuvre de l'homme. C'est quelque chose que l'homme doit faire. La religion consiste à obéir à Dieu. Il est vrai que c'est Dieu qui porte l'homme à ce devoir par son esprit, à cause de la grande méchanceté de l'homme et de sa répugnance à faire le bien. » si cette influence de Dieu n'était pas nécessaire et que les hommes soient disposés d'eux-mêmes à obéir à Dieu, nous n'aurions pas raison de nous écrier « Seigneur, ranime ton œuvre ». Mais il est certain que si Dieu retirait son esprit, il n'y aurait pas sur toute la terre un seul homme qui obéirait à la loi de Dieu. Un réveil religieux suppose qu'il y a eu déclin dans la piété. Presque tout ce qu'il y a de religion dans le monde a été produit par des réveils. Dieu a décidé de profiter de la sensibilité des hommes pour produire chez eux des émotions puissantes avant qu'ils puissent les amener à obéir. Les hommes sont tellement paresseux dans ce domaine, il y a tant de choses qui détournent leur esprit de la religion et s'opposent à l'influence de l'Évangile, qu'il est nécessaire de susciter chez eux une émotion intérieure telle que la marée monte et balaie tous les obstacles. Les hommes ont besoin de ce stimulant pour rompre avec les influences contraires, sans quoi ils ne sont pas disposés à obéir à Dieu. Donc ici, il parle du réveil. Considérez l'histoire des Juifs et vous verrez que Dieu avait l'habitude de maintenir la religion parmi eux au moyen d'occasions spéciales. Quand le peuple se trouvait profondément ému, il revenait à l'Éternel. Après un réveil semblable, il ne s'écoulait jamais beaucoup de temps avant que de nouvelles influences contraires ramènent un déclin de la piété, déclin qui allait croissant jusqu'à ce que Dieu, par son esprit, ait pour ainsi dire le temps de convaincre son peuple de péché. Ainsi Dieu attirait l'attention des masses sur le grand sujet du salut, de manière à produire un réveil étendu. Puis les causes adverses agissaient à nouveau, la religion déclinait, et la nation était emportée dans le tourbillon de luxe, de l'idolâtrie et de l'orgueil. Il y a si peu de principes dans l'Église, si peu de fermeté et de stabilité dans nos intentions, qu'à moins d'un zèle extraordinaire, l'Église quittera le sentier du devoir et ne fera rien pour la gloire de Dieu. Le monde est encore le même et il le restera probablement jusqu'au millénium. La piété doit être stimulée par des réveils. Combien souvent on a cherché à garder l'Église éveillée dans l'action sans ces réveils périodiques. Plus d'un homme a pensé et pense encore que le meilleur moyen de faire progresser la vie religieuse est de marcher d'un pas égal pour rassembler les impies, donc les pécheurs, graduellement et sans bruit. Mais même si cet argument paraît fondé en théorie, les faits en démontrent la futilité. Si l'Église était assez avancée dans la connaissance et avait assez de stabilité de principe pour rester éveillée, la marche ci-dessus suffirait. Mais l'Église est si peu éclairée, il y a tant d'influences contraires qu'elle ne peut pas travailler avec persévérance sans stimulant. Il est très désirable que l'Église avance par elle-même dans l'obéissance. Notre système nerveux est tel que toute excitation puissante prolongée nuit à notre santé et nous rend incapables d'accomplir notre devoir. Si jamais la piété doit avoir une influence pénétrante sur le monde, il faut en finir avec cette religion spasmodique. Quand le millénium sera venu, on n'aura plus besoin de ces efforts extraordinaires. Alors on ne verra plus les chrétiens dormir la plus grande partie du temps pour se réveiller à l'occasion, se frotter les yeux, déblatérer, faire un peu de bruit et se rendormir encore. Alors les pasteurs fidèles ne seront plus obligés de se tuer à la peine pour repousser le torrent d'influences mondaines qui ne cesse d'assaillir l'Église. Mais pour le moment, l'état du monde chrétien est tel qu'il est absurde de s'attendre à pouvoir faire progresser la religion sans ses stimulants. Les nombreuses agitations politiques et mondaines qui troublent les chrétiens sont toutes contraires à la piété et détournent l'esprit des intérêts véritables de l'âme. Et jusqu'à ce qu'il y ait assez de principes religieux pour vaincre ces excitations irréligieuses, c'est en vain que l'on essaiera de développer la piété, si ce n'est par des efforts en sens contraire. Il dit « Un réveil n'est pas un miracle ». On a généralement défini un miracle comme une intervention divine qui met de côté ou qui suspend les lois ordinaires de la nature. En ce sens, un réveil n'est pas un miracle. Toutes les lois de la matière et de la pensée restent en vigueur. Elles ne sont ni suspendues ni mises de côté par le réveil. Ce n'est pas non plus un miracle, d'après une autre définition du mot miracle, quelque chose qui est au-dessus des pouvoirs de la nature. Il n'y a rien dans la religion qui soit au-dessus des pouvoirs ordinaires de la nature. Elle consiste à tous égards dans un juste exercice de ses pouvoirs, rien de plus, rien de moins. Lorsque les hommes deviennent pieux, ce n'est pas qu'ils aient été rendus capables d'accomplir les efforts dont ils étaient auparavant incapables, ils usent seulement d'une manière différente, et pour la gloire de Dieu, de force qu'ils avaient déjà. Un réveil dans aucun sens n'est un miracle ou ne dépend d'un miracle. C'est le pur et simple résultat d'un usage convenable que nous faisons de moyens établis par Dieu, comme il en est de tout autre effet produit par l'emploi de certains moyens. Il peut y avoir ou n'y avoir pas de miracle parmi les causes qui ont agi auparavant. Les apôtres n'opéraient des miracles que pour attirer l'attention sur leur message et pour en établir la divine autorité. Mais le miracle n'était pas le réveil. Le miracle était une chose et le réveil qui suivait le miracle en était une autre. Du temps des apôtres, il y avait un lien entre les réveils et les miracles, mais les réveils n'étaient pas des miracles. Ce que je vous ai lu tout à l'heure, j'ai dit qu'un réveil est le résultat d'un emploi convenable des moyens appropriés. Les moyens que Dieu a prescrits pour obtenir un réveil ont sans aucun doute une tendance naturelle à le produire. Autrement, Dieu ne les aurait pas ordonnés. Mais les moyens ne produiront pas le réveil sans la bénédiction de Dieu. Pas plus que sans cette même bénédiction, les semailles ne produiront une récolte. Il nous est impossible de dire que l'influence de Dieu pour produire un réveil soit plus miraculeuse que celle qui est nécessaire pour une récolte. Que sont les lois de la nature en vertu desquelles la semence produit une moisson ? Elles ne sont que l'ensemble des moyens créés par Dieu en vue de son action. Dans la Bible, la parole de Dieu est comparée à une semence, la prédication à l'action du semeur et les résultats à la naissance et au développement de la moisson. Un réveil est aussi naturellement le résultat de moyens appropriés qu'une moisson est la conséquence de l'emploi des moyens capables de la produire. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. C'est pas trop... Ok. Supposez qu'un homme aille prêcher cette doctrine parmi des cultivateurs en ce qui concerne leur semaille. Qu'il leur dise que Dieu est souverain, qu'il ne leur donnera une moisson que lorsqu'il le voudra bien, et que pour eux, labourer, planter, travailler comme s'ils s'attendaient à une moisson est une grave erreur, que c'est ôter l'œuvre des mains de Dieu, que c'est empiéter sur sa souveraineté, et qu'il n'y a pas de rapport entre les moyens et les résultats sur lesquels ils peuvent compter. Supposez que les cultivateurs aient foi en une telle doctrine, ils condamneraient le monde à périr de faim. Des résultats identiques s'ensuivraient pour l'Église si elle était persuadée que travailler au progrès de la religion est en quelque sorte si mystérieusement l'objet de la souveraineté divine qu'il n'y a point de rapport entre les moyens et les buts. En réalité, quels sont les résultats ? Une génération après l'autre est allée en enfer, tandis que l'Église rêvait et attendait que Dieu sauve ses âmes sans l'emploi des moyens appropriés. Cette pratique a été pour le diable le moyen le plus puissant pour détruire les âmes. En fait, qu'est-ce qu'il explique ici ? On l'a compris. C'est que un réveil, c'est pas souverain. Et trop souvent, l'Église a cru que, tiens, quand il y a un réveil qui éclate quelque part dans le monde, Dieu, par sa souveraineté, avait décidé qu'il en soit ainsi. Et ça, c'est faux. C'est entièrement faux. Quand un réveil se passe quelque part, c'est qu'au cœur de ce réveil, il y a peut-être une petite dame, un petit monsieur, un groupe de croyants qui a été saisi d'une compassion et saisi, comme on en a parlé auparavant, de cette vision de l'état de son propre cœur et de la perdition du monde, et qui s'est mis à prier avec violence, avec persévérance, jusqu'à ce que se produise ce réveil. Donc, il dit le réveil est simplement la conséquence de moyens qu'on emploie, des moyens appropriés. Qu'est-ce qu'il veut dire ici ? En fait, il dit que le réveil, c'est comme une formule mathématique. Pour avoir deux bananes, on en prend une et on en ajoute une autre. Eh bien, lui, il dit que pour arriver à un réveil, si tu emploies le bon moyen approprié, selon Dieu, tu arriveras obligatoirement à un réveil. Et ça, c'est encourageant parce que ça nous montre que le réveil, ce n'est pas Dieu qui, dans sa souveraineté, va dire un jour, tiens, je mets mon esprit sur cette église ou sur cette région. Mais simplement quand on va agir comme il faut agir. Et ça, c'est intéressant. Il dit, ce qu'est un réveil ? Un réveil présuppose que l'église est tombée dans un état de déchéance. Le réveil consiste dans l'abandon par l'église de son relâchement dans la conversion des pécheurs. Un réveil implique toujours une conviction de péché de la part de l'église. Aujourd'hui, le thème, c'était le réveil, et on est en train de poser des fondations. Des chrétiens ne peuvent se réveiller et se mettre immédiatement à servir Dieu sans que leur cœur ait été profondément sondé par l'Esprit de Dieu. Les racines du péché doivent être détruites. Dans un vrai réveil, les chrétiens éprouvent toujours une conviction de péché. Ils voient leur péché d'une manière si vive qu'il leur paraît impossible d'espérer être jamais accueillis par Dieu. Les choses ne vont pas toujours jusque-là, mais un véritable réveil présente toujours de profondes convictions de péché et souvent des cas de désespoir. Les chrétiens déchus seront amenés à la repentance. Donc il parle ici de chrétiens tièdes et froids. Un réveil n'est autre chose qu'un retour à l'obéissance envers Dieu. Il en est comme d'un pécheur qui se convertit. Le premier pas est une vraie repentance, un brisement de cœur qui nous jette dans la poussière devant Dieu avec une profonde humilité et l'abandon du péché. La foi des chrétiens sera renouvelée. Pendant qu'ils sont dans leur état de déchéance, ils sont aveuglés sur la véritable condition des pécheurs. Leur cœur est dur comme le marbre. Les vérités de la Bible leur paraissent un songe. Ils admettent que tout cela est vrai. Leur conscience et leur jugement y donnent leur assentiment. Mais leur foi ne voit pas les réalités saintes saillir en un hardi relief, ni les brûlantes réalités de l'éternité. Mais quand ils entrent dans un réveil, ils ne voient plus les hommes marcher comme des arbres. Toutes choses leur apparaissent dans cette vive lumière qui renouvelle l'amour de Dieu dans leur cœur. En gros, il dit que quand ça arrive, les chrétiens, ils voient, comme ils ne voyaient pas auparavant. Ceci les portera à travailler avec zèle pour amener d'autres âmes à Dieu. Ils s'affligent de ce que les hommes n'aiment pas Dieu alors qu'ils l'aiment tellement. Ils insistent avec tendresse auprès de ceux qui les entourent pour les persuader de donner leur cœur à Dieu. C'est ainsi que leur amour pour les hommes se ranime. Parce qu'effectivement, c'est quand on est en action pour le salut des gens que notre amour est réveillé. Et c'est quand on commence à annoncer l'évangile et on commence à croire que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et puisqu'on la croit, on agit sur cette parole. Cette parole qui dit « Allez et annoncez l'évangile, la bonne nouvelle à toute la création. » Et lorsqu'on le fait, il y a un feu qui vient sur nous. Donc c'est ainsi que leur amour pour les hommes se ranime. Ils sont remplis d'un amour ardent pour les âmes. Ils soupirent après le salut du monde entier. Ils sont en agonie pour tel ou tel individu, ami, parent, ennemi, qu'ils voudraient voir sauver. Non seulement ils les pressent de donner leur cœur à Dieu, mais ils les portent à Dieu dans les bras de la foi et, avec grands cris et larmes, ils supplient Dieu d'avoir pitié d'eux et de sauver leur âme des flammes éternelles. Il y a des mots qu'il emploie ici, c'est intéressant. Il parle de, bien sûr, d'aimer. Il parle d'insister. Et tous, on peut se poser la question, est-ce qu'on insiste auprès des pécheurs ? Il parle de persuader. Il dit que les chrétiens sont remplis d'un amour ardent. Ce n'est pas simplement l'amour. C'est l'amour ardent. On peut dire à notre femme, je t'aime, et avoir une attitude terrible. Ici, c'est un amour ardent. Il dit, il soupire après le salut du monde. Ça veut dire que c'est ce qui les fait vivre, c'est ce qui les fait respirer. Ils soupirent après ça. Ce n'est pas quelque chose qui vient sur eux une fois par an, une fois tous les 6 mois. Mais c'est un soupir, comme la Bible dit, des soupirs inexprimables de la part du Saint-Esprit. Il dit quoi d'autre ? Ils sont en agonie. Donc le soupir va nous amener à une agonie. On est tellement concentré, nos pensées sont tellement concentrées sur les perdus, ça devient tellement le soupir de notre vie qu'au bout d'un moment, ça nous amène à une agonie. Il parle même jusqu'à avoir une agonie même pour que nos ennemis soient sauvés. Ils les portent dans leur cœur avec foi, avec grands cris et larmes. Et on peut se poser la question, depuis combien de temps on n'a pas poussé des grands cris dans la prière? Depuis combien de temps on n'a pas pleuré réellement pour les perdus? Ils supplient Dieu. Depuis combien de temps on n'a pas vraiment supplié Dieu? Non pas simplement « Seigneur, sauve-les », mais une prière qui nous amène à une véritable supplication dans la prière, où le Saint-Esprit se saisit de nous jusqu'à ce qu'on puisse même pousser des cris et des soupirs inexprimables. Un réveil brise le pouvoir du monde et du péché sur les chrétiens. Il les transporte sur un terrain si favorable qu'ils prennent un nouvel élan vers le ciel. Ils ont de nouveaux avant-goûts du ciel et de nouveaux désirs d'union avec Dieu. Le charme du monde est ainsi brisé et le pouvoir du péché est vaincu. Un chrétien rétrograde, il devient rétrograde parce qu'il n'a plus ses yeux sur le ciel et toutes ces réalités de la parole de Dieu, il y croit, il continue à y croire. Mais pour lui, c'est tellement lointain. Mais celui qui brise son cœur devant Dieu et qui commence à attirer tous ses regards vers les perdus, vers le salut, vers les intérêts de Dieu, il va avoir des avant-goûts du ciel. Ça veut dire que de plus en plus, il va entrer dans des dimensions de plus en plus profondes de la présence de Dieu. Des dimensions où il va avoir parfois l'impression dans la prière de comme s'il touchait le ciel. Et c'est une réalité parce que la Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc dans cette dimension de prière, on aura l'impression de parfois de toucher le ciel, comme si on était à un fil de mourir dans la chair et de rejoindre Dieu. Lorsque les églises seront ainsi réveillées et réformées, la réforme et le salut des pécheurs s'en suivront. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'avant qu'il y ait une réforme du cœur des incroyants et un salut de leur cœur, il faut d'abord qu'il y ait une réforme du cœur des croyants et un véritable salut, dans le sens où il y a une décision réelle de la part des croyants. Leur cœur sera brisé et changé. Souvent, les libertins les plus éhontés se rencontrent parmi les sauvés, femmes de mauvaise vie, ivrognes, impies, toutes sortes d'individus dépravés se réveillent et se convertissent. Les êtres les plus dégradés sont touchés et ramenés au bien et deviennent des exemples attrayants de la beauté et de la sainteté. Donc voilà en quelques mots, bon, il continue, mais ce qu'est le réveil. Et on va voir ensemble des exemples. Je vais vous parler de certains exemples de la prière efficace. Qu'est-ce que c'est des désirs ardents? Un exemple d'intercession, être dirigé par l'Esprit pour prier, les conséquences d'être rempli de l'Esprit. Je vais vous donner quelques témoignages de réveil et aussi quand on peut s'attendre à un réveil. Et pour terminer, très rapidement, on verra aussi la façon de prêcher. Donc, prière efficace. Les raisons pour lesquelles Dieu demande la prière efficace. Donc, on va parler de ce que c'est des désirs ardents dans la prière. Pourquoi Dieu demande-t-il une telle prière, une prière efficace donc, des désirs si ardents, une telle agonie dans les supplications? Ces désirs si ardents sont un puissant exemple de l'intensité des sentiments de Dieu. Ils sont comme les vrais sentiments de Dieu pour les pécheurs endurcis. Quand j'ai vu, et je l'ai vu plus d'une fois, la puissance étonnante d'amour pour les âmes qui peut animer un cœur chrétien, j'ai été impressionné par l'amour si merveilleux de Dieu pour les pécheurs et du désir qu'il a de leur salut. Une certaine femme, dans un réveil, a fait sur moi la plus grande impression. Elle éprouvait une compassion si inexprimable pour les âmes qu'elle en était véritablement haletante. Quelle ne doit pas être l'intensité du désir de Dieu à cet égard, puisque son esprit produit chez les chrétiens de telles agonies de l'âme, un tel travail, un travail d'enfantement. Qu'est-ce qu'il dit simplement? C'est que, en fait, si Dieu peut amener certaines personnes, parfois, à crier et à agoniser pour les pécheurs, ça montre à plus forte raison que c'est l'état du cœur de Dieu. Et qu'en fait, le cœur de Dieu est en agonie d'une façon inexprimable et incompréhensible humainement pour les pécheurs. Et son amour est tellement grand qu'il veut aussi que nous, ses enfants, on puisse vraiment revêtir ses sentiments. J'ai vu un homme d'une intelligence remarquable et d'une force musculaire sans égale dans tout le voisinage, tombé par terre complètement terrassé par son désir inexprimable du salut des pécheurs. Je sais que des choses de ce genre en scandalisent plusieurs. Il en sera toujours ainsi tant qu'il y aura dans l'Église des chrétiens aveugles et insensés. Mais je ne puis douter que ces choses ne soient l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Oh, si l'Église entière pouvait être remplie de l'Esprit, de manière à souffrir dans la prière les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce qu'une nation fût enfantée en un jour. Les désirs ardents résultent naturellement d'une grande bienveillance et d'une vue claire du danger que courent les pécheurs. Il est tout à fait raisonnable qu'il en soit ainsi. Si les femmes qui se trouvent ici, entre autres, voyaient là vis-à-vis une famille périssant dans les flammes, si elles entendaient les cris des gens et voyaient leur agonie, elles seraient dans la détresse et il est fort bien probable que plusieurs d'entre elles s'évanouiraient de terreur. Personne n'en serait étonné, ni ne les accuserait de folie ou de fanatisme parce qu'elles éprouveraient une pareille détresse devant un spectacle aussi affreux. On trouverait au contraire bien étrange qu'il n'y ait aucune vive émotion. Pourquoi donc s'étonnerait-on que des chrétiens éprouvent de telles impressions lorsqu'ils ont une vue claire de l'état des pécheurs et de l'effroyable danger qui les menace? Le fait est plutôt que ceux qui n'ont jamais rien ressenti de pareil n'ont jamais eu beaucoup de bienveillance réelle et que leur piété doit être bien superficielle. Je ne désire pas juger avec sévérité ou parler désobligeamment, mais établir un simple fait, et on dira ce qu'on voudra, je sais qu'une pareille piété est superficielle. Je ne parle pas dans un esprit de jugement, je dis la pure vérité. On s'étonne parfois de voir ces sentiments chez des chrétiens. Pourquoi ? C'est tout simplement le résultat naturel, logique et nécessaire d'une profonde piété envers Dieu et d'une grande bienveillance envers les pécheurs impénitents, à la vue du danger immense qu'il court. Il utilise des termes qui sont forts et qui sont vrais. Souvent, vous serez affligés de l'état spirituel de ceux qui sont chargés des âmes. Il y a quelques années, je demandais à une femme appartenant à une des églises de cette ville quel était ici l'état de l'église. Elle paraissait peu disposée à en parler. Elle fit quelques remarques générales, puis, comme suffoquée et les yeux pleins de larmes, elle dit « Oh, l'esprit de notre pasteur semble enveloppé de profondes ténèbres. » Souvent, des chrétiens spirituels éprouvent un sentiment semblable et répandent des larmes à ce sujet. J'ai vu à maintes reprises des chrétiens pleurer et soupirer ainsi en secret, parce que des ténèbres enveloppent l'esprit des pasteurs et à cause de leur amour du monde et de la crainte qu'ils ont des hommes. Mais ces chrétiens n'osaient pas en parler de peur d'être dénoncés, menacés et peut-être exclus de l'Église. Je ne dis pas ces choses par un esprit de jugement pour faire des reproches à mes collègues, mais parce qu'elles sont vraies. Il importe que les pasteurs sachent qu'il n'y a rien de plus commun parmi les chrétiens spirituels qu'un sentiment de douleur et de détresse à cause de l'état du corps pastoral. Je ne voudrais éveiller aucun mauvais sentiment contre les pasteurs, mais il est temps qu'on sache que lorsque des chrétiens arrivent à la compréhension des choses spirituelles et que leur âme est éveillée, ils constatent souvent que leur pasteur n'entre pas dans leurs sentiments, qu'il est bien au-dessous de ce qu'il devrait être et bien inférieur en spiritualité à plusieurs des membres de son Église. Les chrétiens doivent s'accorder quand ils prient, quant à l'importance des réveils. On n'obtient pas la bénédiction d'un réveil en réponse à des prières à moitié sérieuses. Il faut sentir l'importance infinie d'un réveil avant de pouvoir prier avec efficacité. Des bénédictions de cette sorte ne sont accordées qu'en réponse à des prières inspirées par le sentiment de l'importance de ce qu'on demande. Comme je l'ai dit en parlant de la prière efficace, il faut désirer la bénédiction avec une agonie inexprimable pour offrir à la prière qui est infailliblement agréée de Dieu. Ceux qui ne sentent pas à ce point l'importance d'un réveil peuvent le demander en parole, mais ne l'obtiendront jamais. Jamais une Église unie dans la prière, convaincue de l'importance d'un réveil, ne s'est vue trompée dans son attente. Une telle entente, si elle est sincère, garantit l'accord sur tous les autres points indispensables. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En gros, qu'est-ce qu'il dit ? Que si on prie réellement, et si on désire réellement un réveil, on l'obtiendra. C'est simple, mais c'est puissant. Et si une église au complet avait vraiment un cœur pour le réveil, elle l'obtiendrait. La seule personne qui peut nous empêcher de vivre un réveil, c'est nous. Et la seule personne qui peut nous amener dans un réveil, c'est nous. On va lire un exemple d'intercession. On parle de ce qu'est le réveil. Et on donne des fondations sur le réveil. J'ai eu beaucoup d'occasions de voir ce qui en était dans certains endroits. J'ai connu un chrétien qui avait coutume de tenir la liste des personnes qu'il avait spécialement à cœur. Et j'en connais une multitude pour le salut desquelles il priait, qui furent immédiatement convertis. Je l'ai vu prier dans une espèce d'agonie pour certaines personnes portées sur sa liste, et je sais qu'il demandait même quelquefois à quelqu'un d'autre de l'aider à prier pour telle ou telle personne. Son esprit, c'est intéressant, il dit son esprit, pas son âme, son esprit s'attachait, se cramponnait parfois à tel individu endurci dont on désespérait et qui ne pouvait être atteint par aucun moyen ordinaire. Dans une ville où il y avait un réveil, se trouvait un adversaire extraordinairement violent et haineux. Il tenait un café et il prenait plaisir à jurer effroyablement toutes les fois qu'il pouvait être entendu par des chrétiens afin de leur faire de la peine. Il était tellement pervers qu'un de ses voisins crut qu'il lui faudrait vendre ou donner son propre établissement et quitter la ville parce qu'il ne pouvait pas vivre auprès d'un tel jureur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens comme ça. Le chrétien dont je vous parle, passant par cette ville, donc celui qui avait cette liste et qui priait comme ça, apprit ces choses et fut profondément affligé et angoissé au sujet de cet impie. Il l'ajouta à sa liste d'intercession. Le cas pesait sur son cœur, même pendant son sommeil. Il pria pour lui pendant bien des jours. La première chose que nous apprîmes du malheureux jureur, c'est qu'il vint peu après à une réunion, se leva, confessa ses péchés et répandit son âme devant tous. Son café servit aussitôt à des réunions de prière. Voilà comment l'Esprit de Dieu conduit tel ou tel chrétien à prier pour des choses ou pour des personnes pour lesquelles, sans y être conduit par l'Esprit, il n'aurait pas prié. Et ainsi, il prie pour certaines choses selon la volonté de Dieu. Auparavant, il parlait de la façon dont on est inspiré par le Saint-Esprit et il expliquait que si dans notre cœur il y a un désir spécial pour une personne, on peut donc en déduire par là que c'est la volonté de Dieu parfaite de sauver cette personne. Et on peut donc s'appuyer sur ça dans la foi. On sait que c'est la volonté de Dieu de sauver tous les gens. Mais la Bible dit aussi que la foi s'appuie sur la parole de Dieu. Et si on a un désir particulier pour une personne, que Dieu sauve cette personne, c'est que Dieu obligatoirement nous l'a inspiré. Et sur ce désir, on peut prier avec foi, sachant obligatoirement que si on prie réellement, on obtiendra le résultat qu'on veut. Ça, c'est un exemple d'une personne qui savait prier. Si on sait prier, les gens vont se donner. Mais c'est l'importance d'apprendre à prier. Et plus je lis ce genre de livre, et plus je réalise que j'ai besoin d'apprendre à prier. Plus je réalise que si je prie d'une bonne façon, que j'emploie les bons moyens, on ne parle pas de moyens ici naturels, mais des moyens spirituels, obligatoirement, il y a un fruit qui est derrière. S'il n'y a pas de fruit dans ma vie, si les âmes ne sont pas gagnées, c'est que j'ai des choses à changer. Ce n'est pas que le terrain est dur, c'est que mon cœur est dur et que j'ai besoin de le ramollir, de l'attendrir et de changer. Être dirigé par l'Esprit pour prier. Je vais citer quelques exemples. L'Esprit fait sentir aux chrétiens la valeur des âmes, la culpabilité des pécheurs endurcis et le danger qu'ils courent. Il est étonnant de voir l'insensibilité et la stupidité de bien des chrétiens à ce sujet. Il y a même des parents chrétiens qui laissent leurs enfants descendre directement en enfer sous leurs yeux et qui semblent à peine éprouver quelque chose à leur égard ou faire le moindre effort pour les sauver. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aveugles sur ce qu'est l'enfer, incrédules quant à la Bible et ignorants des promesses précieuses que Dieu a faites aux parents chrétiens. Ils chassent l'Esprit de Dieu à force de le contrister et il est inutile de leur dire de prier pour leurs enfants aussi longtemps qu'ils vivent eux-mêmes sans l'Esprit de Dieu. C'est puissant. Il dit que les gens comme ça qui laissent les autres mourir sans rien faire autour d'eux, il dit plusieurs choses sur eux. Il dit qu'ils sont aveuglés concernant l'enfer. Et c'est clair que Dieu doit ouvrir nos yeux par rapport à ça, l'éternité. C'est quelque chose que, pour prier vraiment pour les âmes perdues, on doit vraiment prier pour que Dieu nous ouvre les yeux par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est de vivre éternellement sans Dieu ? Et on est dans un monde complètement naturel, où rien ne nous amène à prier pour les âmes. Il n'y a personne qui viendra nous dire dans la rue « Prie pour moi, prie pour les âmes », en tout cas, prie pour les âmes, naturellement, sans qu'on ait prié avant, mais naturellement, il n'y a rien qui se passera. Surnaturellement, oui, Dieu peut faire des choses extraordinaires, mais naturellement, non. Donc, si on n'a pas vraiment une vision claire de ce qu'est l'enfer, on aura du mal à prier pour les âmes. Il dit aussi qu'ils sont incrédules quant à la Bible, ça on en a parlé avant, et ignorants des promesses précieuses que Dieu a données. L'Esprit conduit les chrétiens à désirer et à demander des choses que la parole écrite ne spécifie aucunement. Que Dieu soit disposé à sauver, voilà une vérité générale. Il est vrai de même qu'il est disposé à répondre aux prières. Mais comment connaîtrais-je la volonté de Dieu pour une personne ? Pour savoir si je peux, oui ou non, prier avec foi et selon la volonté de Dieu pour sa conversion et son salut. C'est ici qu'intervient l'Esprit de Dieu qui incline le cœur de ses enfants à prier pour ses âmes, et cela au moment où Dieu se dispose à les bénir. Ça veut dire que quand Dieu met dans nos cœurs un désir spécial pour une personne, ça veut dire que c'est le moment pour Dieu où il est disposé à bénir nos prières. Quand nous ne savons pas pour quel sujet prier, l'Esprit nous amène à penser intensément à tel ou tel objet, à en considérer les circonstances, à en apprécier la valeur, à avoir des sentiments profonds à son égard, à prier et à prouver et à éprouver comme des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que la personne soit convertie. Je sais que cette sorte d'expérience est moins connue en ville qu'à la campagne à cause du nombre infini de choses qui, dans les villes, détournent la pensée et contristent l'esprit. Là encore, il y a des mots qu'il emploie vraiment intéressants. Il dit « Quand nous ne savons pas pour quel sujet prier, l'Esprit nous amène à penser intensément à tel ou tel objet. » Et dans la prière, si on veut une prière qui amène le résultat, il faut toujours qu'on pense intensément à l'objet de notre prière. C'est-à-dire que si dans ma vie, mon cœur, c'est que des âmes soient sauvées, je dois intensément penser à ça. Ça doit être l'objet de mes pensées. Je ne peux pas imaginer que Dieu fera quelque chose avec mes prières si mes prières sont juste des prières du bout des lèvres. Ça, Dieu nous en a parlé dans l'Ancien Testament. Il ne peut rien faire avec ça. Par contre, quand ça vient profondément du cœur, parce que ça a été alimenté dans nos pensées, qu'on a été transformé dans nos pensées, là, ça peut produire un résultat. Donc, pensez intensément. Aussi, il dit « considérer les circonstances ». Donc, de fait, d'y penser, on va considérer l'état de la personne. Ou d'une manière générale, considérer l'état de notre besoin ou du besoin de la chose pour laquelle on prie. En apprécier la valeur. Donc, apprécier la valeur de la vie d'une âme, par exemple. Si on appréciait vraiment la valeur d'une âme, on prierait différemment. On a besoin d'une véritable appréciation. Avoir des sentiments profonds à son égard et à éprouver comme des douleurs d'enfantement, comme on en a parlé tout à l'heure. Je vais citer quelques conséquences d'être rempli de l'Esprit. On l'a expliqué, avant que le réveil vienne, il faut qu'on soit nous-mêmes réveillés. Qu'est-ce que ça veut dire, être réveillé nous-mêmes ? Ça veut dire être rempli de l'Esprit. Les conséquences de la plénitude de l'Esprit. Donc, quand il y a un cri du cœur qui va venir en vous, l'Esprit de Dieu va vous ranimer, comme il disait Habacuc, de ranimer les vies. Et quand cet esprit va être ranimé, vous allez changer, et nous allons changer. Il dit qu'une des conséquences du fait d'être rempli de l'esprit, il dit on vous appellera excentrique dans l'Église, hein, et probablement que vous mériterez cette épithète, donc ce mot. Je n'ai jamais connu une personne remplie de l'esprit qui ne fût accusée d'être excentrique. La cause en est que ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu diffèrent effectivement de tous les autres. Il y a dès lors les raisons les meilleures pour que de telles personnes paraissent excentriques. Elles agissent sous d'autres influences. Elles ont d'autres vues, d'autres mobiles. Elles sont dirigées par un autre esprit que les autres. Vous devez donc vous attendre à des observations de ce genre. Combien souvent j'ai entendu dire de telle ou telle personne « C'est un brave homme, mais il est un peu exalté. » Quelquefois, j'ai demandé des détails sur cette exaltation pour savoir en quoi elle consistait. En écoutant la liste des accusations, j'ai vu que le tout revenait à être un homme spirituel. Mettez-vous bien dans l'esprit que vous serez un excentrique. Il y a une exaltation affectée, donc mauvaise, Dieu nous en garde, mais il y a aussi un état de l'âme où le fidèle est si profondément saturé de l'Esprit de Dieu qu'il doit agir et agira de manière à paraître étrange et excentrique aux yeux de tous ceux qui ne peuvent pas comprendre les motifs de sa conduite. Autre point, si vous êtes rempli de l'esprit, il est assez probable que plusieurs penseront que vous êtes déséquilibré. Troisième point, si vous êtes rempli de l'esprit, il faut vous attendre à de grandes angoisses au sujet de l'état de l'Église et du monde. Et effectivement, si nos pensées se tournent intensément vers le salut des âmes, c'est obligatoire que le Saint-Esprit viendra mettre un feu sur nous. Et il se peut qu'un soir, en allant nous coucher, il y ait le Saint-Esprit qui nous touche d'une manière extraordinaire, où là, tout d'un coup, on a des angoisses au sujet des âmes perdues. En fait, sans angoisse et sans agonie réelle, il n'y a pas de conversion surnaturelle. Il y a des choses juste naturelles. Et des hommes qui viennent même d'eux-mêmes, peut-être ici et là, rarement à Dieu. Mais quand il y a angoisse, agonie et douleur de l'enfantement, il y a toujours des enfantements. Il y a toujours des âmes qui se produisent. En fait, c'est vraiment surnaturel. Souvent aussi, vous serez affligés de l'état spirituel de ceux qui sont censés diriger les croyants, donc les pasteurs entre autres. Si vous êtes remplis de l'esprit, il faut vous attendre à beaucoup d'opposition de la part des membres de votre église et du monde. Il est probable que les hommes placés à la tête de l'église s'opposeront à vous. Bon, il faut faire la note ici qu'il était dans des églises traditionnelles et c'est là aussi que les réveils arrivaient. Si votre état spirituel est de beaucoup supérieur à celui des autres membres de l'Église, ils s'opposeront à vous. Si quelqu'un veut vivre pieusement en Christ, il doit s'attendre à la persécution. Si vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, souvent les anciens s'opposeront à vous. Autre point, vous devez vous attendre, lorsque vous êtes donc rempli du Saint-Esprit, à des conflits fréquents et acharnés avec Satan, qui a très peu à craindre des chrétiens non spirituels, tièdes, paresseux et mondains. Ceux-là ne comprennent pas ce que dit la parole de Dieu des conflits spirituels. Peut-être qu'ils souriront si vous leur en parlez, et dès lors le diable les laisse tranquilles. Il ne le trouble pas, lui ne les trouble pas non plus. Donc tout ce que vivent ces chrétiens, ce n'est pas le diable, c'est simplement les circonstances, comme les gens de ce monde, la pluie tombe sur les méchants et sur les bons. Le diable sait au contraire que les chrétiens spirituels lui causent un grand dommage, et c'est pour cela qu'il s'oppose à eux. De tels chrétiens ont souvent de terribles conflits avec lui. Et ça, c'est souvent ce qui va rebuter, donc ce qui va faire peur aux chrétiens qui commencent à arriver sur ce terrain-là. Quand ils commencent à arriver sur ce terrain où toutes leurs pensées, jour après jour, sont focalisées sur les âmes, il y a des pressions spirituelles qui vont venir sur eux et qui vont les amener à avoir peur et à craindre, à avoir peur du diable et à avoir peur de conséquences bizarres, à avoir peur de la maladie, à avoir peur des persécutions. Et ça, c'est des choses, des pressions spirituelles qui viennent sur les gens, des pensées qui vagabondent pour les faire reculer. Il va même dire des choses ici vraiment étonnantes. Donc ces gens-là qui vont avoir des terribles conflits avec Satan, ils ont des tentations comme jamais auparavant, des pensées blasphématoires ou d'athéisme, des suggestions de commettre de mauvaises actions, de sauter la vie et autres choses semblables. Si vous êtes spirituel, vous devez vous attendre à ces terribles conflits. Là, on parle vraiment de choses spirituelles. Et d'ailleurs, Finney lui-même, à un moment, Watchman Nee, à un moment, expliquait que parfois, il a dû lutter contre ce genre de pensée blasphématoire et d'athéisme. Et pourtant, il savait. Mais c'était vraiment démoniaque et mauvais. Autre point, vous aurez des luttes plus grandes avec vous-même que vous ne l'auriez jamais prévu. Vous trouverez quelquefois que votre propre corruption s'élève d'une manière étrange contre l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Souvent, cette corruption se manifeste avec une puissance qui jette le chrétien dans la consternation. Un pasteur me racontait qu'un commandant de marine des États-Unis, homme spirituel, avait eu à soutenir contre des tentations intérieures, des luttes telles qu'il lui arrivait de passer la nuit couché sur le plancher, gémissant et criant à Dieu pendant des heures, lui demandant de briser la puissance de la tentation. Il semblait que le diable fût résolu de le perdre et que pour le moment, son cœur fût presque ligué avec le démon. Point 8, et ça c'est apaisant. Mais vous aurez la paix avec Dieu. Et ça c'est vraiment puissant. Et entre autres, on a eu ici l'occasion d'avoir les pasteurs Rulant. Et ces gens ont vécu un réveil, il y a bien des années. Et ça a créé des églises à être créées qui sont encore aujourd'hui, donc il y a plus de 25 ans, 30 ans. Il y a eu une production d'âmes, des miracles incroyables, des conversions surnaturelles, des gens qui tombaient sous la puissance de Dieu, se repentant, des gens qui étaient guéris miraculeusement. Et il expliquait qu'ils ont vécu des choses comme ça, des choses vraiment difficiles, des épreuves, des persécutions terribles. Mais dans toutes ces choses, lorsqu'ils se soumettaient à Dieu et qu'ils s'humiliaient, parce que c'est ce qu'on a besoin quand on vit ça, et la paix de Dieu venait. La Bible dit la paix qui surpasse toute intelligence. Et ça, c'est ce qui nous rend fort, ce qui nous fortifie. Il dit aussi, vous aurez aussi la paix de la conscience si vous êtes conduit par l'esprit. Ça veut dire qu'à la fois, peut-être le diable essaiera de nous amener à voir comme si notre péché était insurmontable et quasiment, on disait tout à l'heure, comme si Dieu ne pouvait même plus nous accepter. Mais en même temps, alors qu'on priera, on aura la paix dans notre conscience. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Je n'ai rien sur ma conscience. Ça, c'est puissant. Si vous êtes rempli de l'esprit, vous serez utile. Vous le serez inévitablement. Ça veut dire qu'un homme rempli de l'esprit ou une femme remplie de l'esprit est obligatoirement utile. Lors même que vous seriez malade et incapable de sortir de votre chambre, de parler ou de voir qui que ce soit, vous seriez 10 fois plus utile qu'une centaine de ces chrétiens, tels qu'on les rencontre partout, dépourvus de spiritualité. Ça veut dire qu'un en vaudra 100. Faux. J'ai connu comme ça un vieux couple de chrétiens, des gens qui étaient à la retraite, et c'est sûr, ils ne pouvaient pas vraiment se déplacer souvent. Mais ces gens-là, constamment, ils priaient. Ils priaient constamment. Et entre autres, ils avaient le magazine Porte Ouverte et ils priaient pour les persécutés. Et ces gens-là, quoi qu'ils soient dans leur condition, peut-être de fatigue, et plus de pouvoir conduire régulièrement, etc., ils étaient vraiment utiles. Plus qu'une église parfois de 100 personnes, de chrétiens superficiels. Voici une anecdote pour illustrer cette pensée. Un homme pieux de notre contrée était malade des poumons. Il était pauvre et souffrait depuis des années. On sait que c'est la volonté de Dieu parfaite de guérir tout le monde. Un négociant inconverti de cet endroit, qui avait bon cœur, lui envoyait de temps en temps quelque chose pour le soulager, lui et sa famille. Le malade était reconnaissant, mais regrettait de ne pouvoir lui rendre l'appareil. À la longue, il prit le parti de récompenser son bienfaiteur en priant pour son salut. Il se mit à prier, sa prière devint toujours plus ardente et il s'empara de Dieu. Il n'y avait pas de réveil dans cette ville, mais à l'étonnement de tous, le marchand se décida nettement pour le Seigneur. Le feu se répandit dans tout l'endroit, il eut bientôt un réveil puissant et une multitude de personnes furent converties. Le pauvre homme languit de la sorte pendant quelques années et il mourut. Après sa mort, je visitais cet endroit et sa veuve me montra le journal de son mari. Il y disait, entre autres, « Je suis en relation avec environ 30 pasteurs et églises. » Il avait mis à part certaines heures du jour pour prier pour chacun de ses pasteurs et pour leurs églises. Il avait mis aussi à part certains moments pour prier en faveur de quelques stations missionnaires. Donc voilà comment le réveil a eu lieu dans cette ville. On va voir quelques... On va voir les derniers points. Donc, si vous êtes rempli de l'esprit, vous ne serez pas angoissé, irrité ou vexé lorsqu'on parlera contre vous. Ça, c'est intéressant. Si vous êtes rempli de l'esprit, donc ça veut dire que si on l'est, ça veut dire qu'on ne l'est pas, qu'on n'est pas rempli. Si vous êtes rempli de l'esprit, vous vous emploierez avec sagesse à la conversion des pécheurs. Si vous êtes rempli de l'esprit, vous serez calme dans l'affliction. Et quand vous verrez la tempête arriver, vous n'en serez point troublé ou consterné. Les gens qui vous entourent seront étonnés de votre paix et de votre contentement d'esprit au milieu des épreuves. Et dernier point, vous serez résigné en face de la mort. Vous vous sentirez toujours prêt à mourir. Vous n'aurez pas peur de la mort et après votre mort, vous serez d'autant plus heureux pour toujours dans le ciel. Et ça, effectivement, c'est une chose que vit la personne qui est remplie de l'esprit, c'est qu'il préférerait mourir, comme dit l'apôtre Paul. La mort m'est préférable à la vie. Tellement il est dans des réalités, des dimensions beaucoup plus profondes que beaucoup de gens. Quelques petits témoignages de périodes de réveil. J'ai entendu un pasteur dire qu'il n'y avait pas eu de réveil depuis plusieurs années dans une certaine ville. L'église était presque éteinte. Une église éteinte, c'est une église qui ne gagne pas d'âme. Les jeunes gens étaient tous inconvertis. C'était une désolation, mais il y avait dans un coin retiré de la ville un vieux forgeron qui bégayait au point qu'il était pénible de l'entendre parler. Un vendredi qu'il était seul à l'ouvrage dans sa forge, il se sentit ému de l'état de l'église et d'un si grand nombre de pécheurs impénitents. Son angoisse devint si grande qu'il se décida à quitter son ouvrage, à fermer sa boutique et à passer l'après-midi en prière. Ça arrive, le Saint-Esprit nous pousse parfois. Ça arrive. Et on n'y prend pas garde. Et quand on y prend garde, on n'imagine pas ce que ça peut produire dans la vie des gens, mais aussi dans notre propre vie. Parfois, Dieu a résolu de nous ranimer en cet instant. Mais il cherche des gens qui ont soif. Il remporta la victoire et le dimanche alla chez le pasteur et le pria de convoquer une réunion, donc une réunion de réveil. Après quelques hésitations, le pasteur y consentit, mais avec la crainte que peu de personnes y viennent. Il annonça la réunion pour le même soir dans une grande maison privée. Quand le soir fut venu, il y eut plus d'assistants que la maison n'en pouvait contenir. Tous furent pendant quelque temps dans le silence, jusqu'à ce qu'enfin un pécheur éclata en sanglots et dit « Si quelqu'un peut prier, qu'il prie pour moi. » Un autre suivit, puis un autre, puis encore un autre. Finalement, des personnes de tous les quartiers de la ville se trouvèrent sous une profonde conviction de péché. Chose remarquable, c'est que tous faisaient dater leur conviction de péché de l'après-midi où le vieillard avait prié dans sa boutique. Il s'ensuivit un puissant réveil. Ainsi, ce pauvre vieillard bègue lutta avec Dieu et, comme Jacob, remporta la victoire. C'est puissant. Une prière inspirée, c'est vraiment puissant. Là, il raconte une histoire qui se passa dans la nuit du 20 au 21 juin 1630, donc ça date. Il pria et s'entretenait avec Dieu, John Livingstone, parce qu'il avait été choisi pour prêcher le jour suivant dans une église. Seul dans les champs vers 8 heures du matin, il aurait voulu s'enfuir, étant rempli d'une crainte qui allait jusqu'à l'agonie, lorsque la puissance victorieuse de l'esprit le contraignit de retourner. En conséquence, il prêcha comme convenu, son texte était Ézéchiel 36-25. Après qu'il eut parlé pendant 1 heure et demie, quelques gouttes de pluie troublèrent les gens. Livingstone, après leur avoir demandé quel abri ils avaient contre l'orage de la colère de Dieu, continua 1 heure encore. 500 personnes environ se convertirent sur place. Un réveil donne souvent naissance à un autre réveil. En voici la preuve. Le 23 juillet 1839, donc c'est-à-dire 200 ans plus tard environ, William Burns, dans une grande réunion, prêcha sur le psaume 110 et raconta l'incident de ce qui s'était passé donc juste avant, en 1630, dans cet exemple, juste avant. Il insista sur une acceptation immédiate de Christ. Il dit « Je sentais ma propre âme si extraordinairement émue que je fus amené, comme Livingstone, à supplier les inconvertis d'accepter instantanément la grâce offerte par Dieu. La puissance de l'Esprit du Seigneur sur leur âme devint si grande qu'elle emportait tout sur son passage, comme le vent impétueux de la Pentecôte. Quelques-uns criaient en agonie, d'autres, et parmi eux des hommes forts, tombaient à terre comme morts. Je fus obligé d'indiquer un psaume, et nos voix se mêlaient aux gémissements douloureux des captifs, soupirant après la délivrance. » Ça, c'est un réveil. J'avais un autre point, mais c'est pas grave. Quand peut-on s'attendre à un réveil? Ça, c'est intéressant. Quand peut-on s'attendre à un réveil? On peut attendre un réveil quand la providence de Dieu en donne les indices, et ces indices sont quelquefois si clairs qu'ils tiennent lieu d'une révélation de sa volonté. On peut attendre un réveil quand la dépravation des méchants humilie et afflige les chrétiens. On peut attendre un réveil quand les chrétiens ont un esprit de prière en faveur d'un réveil, parce que leur cœur n'est occupé que de cela. Parfois, ils ne pensent pas à un réveil, même quand ils ont le plus d'ardeur dans la prière. Leur esprit est fixé sur un autre sujet. Ils prient peut-être pour le salut des païens, mais non pour un réveil dans leur localité. Mais quand ils sentent le besoin d'un réveil, ils prient pour l'obtenir. Ils prient pour leur famille et pour leurs voisins. Ils prient pour eux comme si Dieu ne pouvait leur refuser leur demande. Qu'est-ce qui constitue un esprit de prière? Sont-ce beaucoup de prières et de paroles pleines de chaleur? Non. La prière est un état du cœur. L'esprit de prière est une anxiété de l'âme, remplie d'un désir continuel du salut des pécheurs. Il en est comme d'un homme d'affaires accablé par les soucis de son entreprise. Un chrétien qui a l'esprit de prière est anxieux pour les âmes, c'est l'objet constant de ses pensées. Il agit comme s'il avait un poids sur le cœur. Il y pense pendant le jour et il en rêve la nuit. Voilà ce que c'est que de prier sans cesse. Ses prières semblent découler de son cœur. Ô Seigneur, fais revivre ton œuvre. Quelquefois, ce sentiment est extrêmement profond. On a vu des personnes tellement courbées sous ce poids qu'elles ne pouvaient être ni debout ni assises. Je pourrais nommer des hommes forts et vigoureux, accablés de douleur en voyant l'état des méchants. Ce sentiment n'est pas toujours aussi profond, mais il est plus commun qu'on ne le suppose. On en a vu plusieurs exemples dans les grands réveils de 1826. C'est précisément ce que Paul sentait quand il dit « Mes petits enfants pour lesquels je suis en travail d'enfantement ». J'ai entendu parler d'une personne qui priait instamment pour les pécheurs et qui tomba dans un tel état d'âme qu'elle ne pouvait vivre sans prière. Elle ne pouvait trouver de repos ni jour ni nuit que lorsque quelqu'un priait. Alors, elle était tranquille. Mais si l'on cessait, elle était de nouveau en agonie jusqu'à ce qu'on recommence à prier. Cet état dura 2 jours. Elle remporta alors la victoire et son âme fut soulagée. Ce travail de l'âme est une profonde agonie quand elle lutte avec Dieu en vue d'une bénédiction et qu'elle ne veut pas le laisser aller avant de l'avoir reçu. Je ne prétends pas affirmer qu'il n'y ait vraiment un esprit de prière que là où se trouve une pareille détresse, mais seulement que ce souci profond, continuel et ardent de l'âme pour le salut des pécheurs constitue l'esprit de prière en faveur d'un réveil. Quand ce sentiment existe dans l'Église, on peut compter qu'il y aura un réveil, à moins que le Saint-Esprit n'en soit chassé par quelque interdit. Un pasteur m'a raconté les détails d'un réveil qui eut lieu dans son église et qui commença par l'influence d'une femme dévouée à la cause de Dieu. Cette sœur était en travail pour la conversion des pécheurs, priant instamment pour eux. Plus elle priait, plus sa détresse augmentait. Enfin, elle alla parler de son état au pasteur, lui demandant de convoquer une réunion pour les personnes anxieuses au sujet de leur âme, car elle en sentait la nécessité. Le pasteur, qui n'éprouvait rien de semblable, la renvoya. La semaine suivante, elle revient le supplier, en lui disant qu'il y viendrait assurément quelques personnes et qu'elle sentait que Dieu allait répandre son esprit, mais il la renvoya de nouveau. Elle lui dit enfin, « Si vous ne convoquez pas la réunion que je vous demande, je mourrai, car il se prépare certainement un réveil. » Le dimanche suivant, le pasteur dit que si quelques personnes désiraient s'entretenir avec lui touchant le salut de leur âme, il serait à leur disposition tel soir de la semaine. Il n'en connaissait aucune qui fût inquiète quant à son salut, mais lorsqu'il arriva à la réunion, à son grand étonnement, il trouva un grand nombre d'âmes anxieuses. N'est-il pas évident que cette femme savait qu'il y aurait un réveil ? Quelquefois, des pasteurs ont été dans une détresse semblable au sujet de leur église, et ce sentiment devenait si violent qu'il leur semblait ne plus pouvoir supporter la vie s'ils ne voyaient un réveil. Il arrive que des anciens, des diacres ou de simples laïcs ont l'esprit de prière pour demander un réveil, et cela à un tel degré qu'ils luttent avec Dieu victorieusement jusqu'à ce qu'il répande son esprit. Le premier rayon de lumière qui brilla au milieu des ténèbres dans lesquelles étaient plongées les églises à New York à la fin de 1825 provint d'une femme ayant une mauvaise santé qui, je crois, n'avait jamais été témoin d'un puissant réveil. Son âme était tourmentée au sujet des pécheurs et comme en agonie pour le pays. Elle ne savait ce qui la troublait, mais elle était obligée de prier toujours davantage, au point que cela semblait consumer son corps. Enfin, remplie de joie, elle s'écria « Dieu est venu, Dieu est venu ». Il n'y a point de doute, l'œuvre est commencée et va s'étendre sur tout le pays. Effectivement, il y a eu un réveil suite à ça. On peut s'attendre à un réveil quand l'attention des pasteurs est tout particulièrement dirigée sur ce sujet et quand leurs prédications et leurs efforts ont pour but principal la conversion des pécheurs. On peut attendre un réveil quand les chrétiens commencent à confesser leurs péchés les uns aux autres. En temps ordinaire, ils ne remplissent ce devoir que d'une manière vague, comme s'ils n'étaient qu'à moitié convaincus. Ils font peut-être à ce sujet des déclarations qui ne signifient rien. Mais quand les cœurs sont vraiment brisés et sincères, et qu'ils se répandent devant Dieu en confessant leurs péchés, les écluses des cieux seront bientôt ouvertes, et le salut ne tardera pas à se répandre. Ça, c'est une chose qu'on voit avant les réveils et aussi pendant les réveils. C'est que les pécheurs confessent leurs péchés publiquement, mais aussi les chrétiens. Et dans les églises, il y a des chrétiens qui se cachent et qui cachent des péchés profonds dont ils auraient honte s'ils étaient affichés devant tous. Et une des choses qui se fait vraiment quasiment plus du tout dans les églises, en tout cas évangéliques, c'est le fait de se confesser les péchés les uns aux autres. Et pourtant, c'est dans le Nouveau Testament. Ça a été repris par la religion traditionnelle et d'une mauvaise façon. C'est vraiment, ils font ça vraiment d'une façon, c'est n'importe quoi. Mais il y a une réalité biblique et divine et pour notre alliance de se confesser les péchés les uns aux autres. Pourquoi ? Parce que ça va nous libérer. Ça va nous humilier aussi. Et on va se soumettre. Et c'est quelque chose de spirituel. Parfois, le fait de confesser ses péchés les uns aux autres, ça nous amène à une délivrance et ça amène aussi le feu du Saint-Esprit qui voit en nous quelqu'un qui s'humilie et quelqu'un qui fait ça parce qu'il veut voir la gloire de Dieu et il ne veut pas être empêché par un péché qu'il n'a pas confessé. Ce sont les péchés confessés qui sont pardonnés. On peut attendre un réveil quand les chrétiens sont disposés à faire les sacrifices nécessaires pour le développer. Et effectivement, un réveil va nous amener à des sacrifices dans notre temps, dans notre argent. C'est un sacrifice incroyable. Et pour reparler de ces pasteurs, les pasteurs Rulands, ils expliquaient que pendant des mois et des mois et des mois, ils se levaient très tôt, ils faisaient toutes sortes d'affaires, etc. Ils amenaient leur fille à l'école. Ils partaient pour la journée dans des villages annoncer l'évangile dans des maisons. Ils revenaient le soir reprendre leur fille de l'école. Ils repartaient et leur fille faisait leurs devoirs dans leur voiture la majorité du temps. Et ils arrivaient souvent dans des endroits très loin. Ils arrivaient dans des maisons à nouveau ou dans des salles. Et là, leur petite fille était, bon, elles étaient jeunes, elles avaient 9-12 ans. Et se mettaient au fond et continuaient leurs devoirs. Finalement, elles s'endormaient et là, ils continuaient à prêcher l'évangile. Et c'était comme ça pendant des mois. Et c'était des gens qui étaient sauvés, c'était des gens qui étaient guéris, c'était des miracles extraordinaires. Donc c'est sûr que ça nous amène à des sacrifices. Et c'est aussi une des choses qui peut faire peur aux gens, c'est ce sacrifice. Et de toute façon, nous tous, un jour ou un autre, on a décidé de ne pas aller plus loin parce que ça nous demandait un sacrifice. D'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, on a fait le choix de ne pas faire telle ou telle chose parce que c'était un sacrifice. Et si on veut un réveil, on doit mourir petit à petit à notre volonté et à nos désirs personnels. On peut attendre un réveil quand pasteur et troupeau s'accordent pour demander à Dieu qu'il opère par les instruments qu'il lui plaira d'employer. Quelquefois, les pasteurs ne voudraient avoir un réveil qu'à condition d'en avoir la direction ou que leur coopération y soit mise en évidence. Ils veulent prescrire à Dieu ce qu'il doit faire et où il doit bénir, et lui indiquer quels hommes il doit mettre en avant. Ils ne veulent point d'innovation, ils ne peuvent supporter cette prédication de nouvelles lumières. C'était la façon dont ils prêchaient à l'époque, où ils s'adressaient aux gens directement et ils adressaient leurs péchés, ni ces évangélistes qui vont prêcher de lieu en lieu. En gros, ça veut dire que Dieu peut utiliser n'importe qui. À strictement parler, je devrais dire que lorsque les indices ci-dessus, qu'on a mentionnés, le réveil dans une certaine mesure est déjà là aussi. En vérité, on devrait s'attendre à un réveil toutes les fois qu'il est nécessaire. Si nous avons besoin d'être réveillés, c'est notre devoir de nous réveiller. Si c'est un devoir, c'est possible. Et nous devrions mettre tout en œuvre pour cela. Puis nous appuyons sur la promesse de Christ d'être avec nous, liés à l'ordre de faire des disciples en tout temps et en tout lieu, nous devrions travailler à réveiller les chrétiens et à convertir les pécheurs dans une attente confiante du succès. C'est pourquoi toutes les fois que l'Église a besoin d'être réveillée, il y a possibilité pour elle de se réveiller et elle devrait s'attendre à l'être et avoir des pécheurs se convertir à Christ. Pour terminer, dernier point, c'est la façon de prêcher. Il y aurait, c'est sûr, encore beaucoup de choses à dire, mais bon, on est limité dans le temps. Finet, âgé de 32 ans, vint se marier dans l'Oneida où il avait passé une grande partie de sa jeunesse. Mais 2 jours après son mariage, le service de Dieu l'oblige à quitter sa jeune épouse. Il est 6 mois sans la revoir. Ça, c'est du sacrifice. Bon, à l'époque, il n'y avait pas trop d'enseignement sur le mariage. Ah, c'est qu'il n'est pas homme à faire passer ses intérêts avant ceux de son maître. Il est entraîné de ville en ville. Voilà, il cite plusieurs villes. Et partout, les réveils les plus puissants s'étendent et se multiplient. Dans une ville, à la fin de sa prédication, il prie ceux de ses auditeurs qui veulent livrer leur cœur à Dieu de prendre place sur le banc au pied de la chaire. Ils appelaient ça le banc des impénitents. Et ils mettaient ça devant les églises. Et les gens qui voulaient se convertir, ils devaient se mettre à genoux sur ce banc. Spécial, mais c'est comme ça qu'ils faisaient. Une jeune élégante, donc une femme de belle allure, qu'il avait reprise un moment auparavant au sujet de sa vanité, est la première qui répond à cet appel. « Sans aucun souci de sa dignité, dit Finet, elle se leva vivement et courut d'un air désespéré se jeter au pied de la chaire, où elle commença à sangloter tout haut. On eût dit qu'elle avait oublié la présence des spectateurs et qu'elle se croyait seule devant Dieu. Il y eut comme une commotion électrique dans l'auditoire. De toutes les parties de l'église, de presque tous les bancs, on arrivait en masse devant la chaire. Un grand nombre de personnes firent, séance tenante, leur soumission à Dieu en confessant avec larmes leur longue rébellion. C'est impressionnant de voir que quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, il peut avoir une face devant toi et être qui il est, et un instant d'après, quand l'Esprit tombe sur lui, c'est une personne qui est détruite, dans le sens où il est humilié, brisé, et il crie à Dieu. Et après, bien sûr, le Seigneur la relève, après l'avoir sauvée. Bien des années plus tard, Finet eut des nouvelles de la jeune fille dont l'élan impétueux avait décidé le mouvement. Elle s'était fait et avait gardé dans sa ville natale la réputation d'une femme dévouée aux intérêts du Christ. Et là, il va parler de la façon dont il prêchait. Ces conversions promptes, décidées, ne doivent pas nous étonner. J'ai toujours insisté, dit Finet, sur une soumission immédiate comme la seule chose que Dieu puisse accepter du pécheur. Tout délai, quel qu'en soit le prétexte, est un acte de rébellion. Et là, on peut repenser à toutes les fois où on annonce l'évangile aux gens et où on leur dit pense-y. Sous l'influence de cet enseignement, j'ai souvent vu des personnes passer en quelques heures et même en quelques minutes de l'insouciance à une profonde conviction de péché et de cette conviction à une conversion sincère. Ces conversions subites alarmaient les braves gens. On ne se lassait pas de prédire que ces convertis retourneraient en arrière à cause de la promptitude. Mais la suite a prouvé que plusieurs ont été pendant de longues années au premier rang des disciples de Jésus-Christ dans notre pays, et telle a été mon expérience pendant tout mon ministère. Or, le ministère de Finet a duré 54 ans. Voilà un peu. Donc, on a parlé du réveil, et vous avez pu prendre ici et là des informations pour vos propres vies. Mais on voit que le réveil nous amène à changer, et que ce n'est pas un acte souverain, mais c'est simplement faire les bonnes choses et s'humilier et humilier notre propre cœur devant Dieu et pousser constamment nos pensées vers les perdus, parce que c'est ce pour ça que Dieu nous a sauvés aussi. C'est pour qu'on puisse amener des gens à lui. Et si nos pensées sont intensément poussées vers les perdus, constamment poussées vers les perdus, automatiquement, le Saint-Esprit va venir sur nous. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Une des premières choses, c'est, il en a parlé tout à l'heure, c'est ce combat qu'il va avoir entre la chair et l'esprit. La présence de Dieu, l'onction de Dieu va venir sur nous, mais cette onction va nous amener à délaisser des choses. C'est toujours ce que Dieu fait quand il veut utiliser quelqu'un. Donc cette onction est pesante, et en fait c'est vraiment l'image dans l'Ancien Testament de ce potier qui modèle son vase. Et un jour, le pasteur Michael a raconté un songe qui m'a vraiment marqué. Il a vu un homme, et en fait c'était Jésus, qui était devant des vases. Et l'homme, Jésus, a pris ce vase et il l'a amené dans une chambre qui s'appelait comme la chambre de la consécration. Et là, dans cette chambre, il a versé de l'huile dans ce vase. Et il l'a repris, et en partant de cette chambre, il a voulu le déplacer et le poser. Et en fait, le vase commençait à se débattre. Et il y avait des bras qui ont commencé à sortir du vase et il se débattait et l'huile commençait à couler. Et ça, c'est vraiment l'image parfaite de quand le Saint-Esprit commence à venir sur nous pour nous faire vivre des choses plus grandes et plus fortes dans l'esprit de réveil. La chair ne supporte pas l'onction. La chair ne supporte pas la présence de Dieu. C'est pour ça que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre d'ailleurs, parce qu'on mourrait instantanément. Donc, plus on s'approche de Dieu, la Bible dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Donc plus on s'approche de Dieu, plus il va s'approcher. Mais plus la lumière s'approche et plus les ténèbres sont mal à l'aise. Et parfois, il y a des ténèbres qui sont là à l'intérieur de nous. Des choses que Dieu sait que si ça reste en nous et que la gloire éclate, demain, c'est nous qui allons éclater. Donc Dieu met son onction pesante sur nous petit à petit, comme le potier qui modèle le vase. Et là, c'est des temps où on s'humilie. On s'humilie, on ne sait pas comment faire pour nous en sortir, mais on sait que Dieu va le faire. Et on s'humilie devant Dieu et on confesse nos péchés petit à petit. Et là, la présence de Dieu s'intensifie. Et alors que nos pensées sont tournées vers les âmes, on commence à produire des changements. Et on commence à prier différemment. Et là, le Saint-Esprit met un feu sur nous de plus en plus grand et on se surprend à prier de plus en plus souvent, de plus en plus intensément. On se surprend à pleurer pour les perdus. On se surprend à agoniser pour eux. On se surprend à avoir de nouvelles révélations de l'enfer, mais aussi du ciel, comme il en a parlé. Et petit à petit, on se surprend aussi à parler, à commencer à parler à nos voisins, à des gens à qui on n'aurait jamais eu l'audace de parler auparavant. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit d'audace. C'est lui qui nous rend audacieux. Et alors qu'on leur parle, on peut à nouveau être surpris de ce que, alors qu'on leur parle, le véritable évangile, et alors qu'on les amène à se livrer à Dieu, corps et âme, tout de suite, on peut être surpris de voir qu'il y a une conviction de péché qui vient sur eux. Et ça, c'est une des choses aussi, qu'on en a parlé plusieurs fois, mais la conviction de péché, c'est une des choses que, bizarrement, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est. Mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui, de la même manière, qui vient un peu sur les croyants, c'est une conviction qui vient dans l'esprit d'une personne. Oui, il se sent mal. En fait, il réalise l'état de son cœur. Il réalise combien il est loin de Dieu et combien sa vie est une insulte à Dieu. Aujourd'hui, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils s'en fichent complètement. Ils peuvent pécher et tout ça, mais ils s'en fichent complètement de Dieu. Certains sont un peu plus consciencieux, mais il y a des choses qu'ils font dans leur vie et peu importe. Quand cette conviction de péché vient sur l'homme ou la femme qui est perdue, il se sent mal à l'intérieur. Et ça l'amène à renoncer à son péché et à le confesser devant Dieu. Et cette conviction de péché a amené des gens, il en parle entre autres, il donne beaucoup d'exemples de ça, a amené des gens à crier et à supplier quelqu'un, un croyant, mais comment je peux être sauvé ? Et parfois, il y a des gens comme ça qui ont lutté pour garder leur vie, comme le jeune homme riche. Ils ont lutté et alors ils étaient là et c'est comme si au bout d'un moment ils pensaient mourir tellement ils luttaient. Le père d'Annabelle, lui, a une conviction de péché qui est venue sur lui et j'ai vu ce que c'était pour une des premières fois ce que c'était. Pasteur Olivier m'avait expliqué quand j'annonce l'évangile à quelqu'un, il y a une conviction de péché qui vient sur cette personne et quand la conviction de péché est là, c'est là qu'il faut prier avec la personne pour qu'il accepte le Seigneur. Quand on sent que vraiment la personne est sous une conviction de péché. Sinon, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est, elle va simplement répéter quelque chose, elle va croire que c'est ça, être sauvée. Et on l'a tous vécu et c'est malheureux parce que la personne, elle se dit, bah, finalement, j'ai fait ta prière et il n'y a rien qui change dans ma vie. Donc, c'est pas bon. Ça leur donne une fausse image de la vie chrétienne. Et donc, ces gens sont amenés à une conviction de péché. Et lui, bah, son père, il a été amené comme ça et à une conviction de péché. Et là, il faut avoir l'audace d'amener cette personne au bout. Et une chose intéressante dont il parle aussi, c'est quand il annonce l'évangile aux gens, il va pointer leur péché d'une façon douce, avec amour, mais il va pointer leur péché. Parce que comme le jeune homme riche, il y a toujours quelque chose qui empêche les gens de se donner à Dieu. Certains, c'est l'amour de l'argent, d'autres, c'est autre chose, mais il y a toujours quelque chose. Et vous allez remarquer que quand vous allez parler du Seigneur aux gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, de leur propre bouche, ils vont vous dire c'est quoi qui les empêche de se donner à Dieu. De leur propre bouche. Certains diront par exemple, ah oui, mais si je me convertis, est-ce que j'aurai le droit de ceci ou de cela ? Ou qu'est-ce que tu penses de ceci et de cela ? Et ça, il faut être vigilant, mais bon, ça pourrait être le thème d'une autre étude.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.